Mommy Mbouzé, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer en gros les raisons qui vous ont emmené à émigrer en Belgique et depuis quand exactement?
Disons que je suis arrivé en Belgique par la volonté surtout de mon père qui voulait me voir y terminer mes études. Mais aussi je pense que parce que quelque part il avait un peu pressenti le chaos qui adviendrait au pays fin des années 90. Après mes études, j'étais un peu comme beaucoup de jeunes dans une période là où on s'est cherché un peu. Mmh. Et puis entre temps, j'ai eu une vie de famille, des enfants qui sont arrivés. Et du coup, le retour se doit être beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus sûr. Donc je planifie les choses, je travaille sur les choses qui me permettront de pouvoir retourner au pays et ainsi que ma petite famille. C'est ce que je dis souvent à beaucoup de jeunes africains, c'est de se dire que tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous acquérons comme bagage intellectuel, académique et professionnel doit pouvoir être mis à disposition du pays pour pouvoir participer au développement.
Vous me laissiez entendre que une bonne maîtrise du néerlandais permet de s'intégrer facilement dans des pays comme la Belgique et de ne pas avoir beaucoup de difficultés. C'est bien cela?
Oui, disons que c'est un outil très important qui facilite et qui donne accès à beaucoup de choses au niveau de la Belgique. Parce que déjà, c'est bon de savoir que ce n'est pas un pays monobloc, qui fonctionne de la même manière du nord au sud. La Flandre fonctionne d'une certaine manière, Bruxelles d'une certaine manière, Wallonie d'une autre manière. Et dans ce petit pays complexe, la Flandre c'est au fait le moteur qui fait un peu avancer la Belgique. Mmh. Donc en termes de facilité, en termes de prospérité, trouver un logement, trouver un travail, il y a beaucoup plus de chances en Flandre au fait parce que c'est une région très dynamique, si je puis dire la plus dynamique de la Belgique, et qui offre beaucoup plus d'opportunités que le reste du pays. Déjà, je vais prendre l'exemple des plus grandes entreprises étrangères implantées en Belgique,
oui.
La plupart le sont en Flandre. Même en parlant des entreprises, par exemple, comme les agences intérim, toutes ont leur siège en Flandre. Donc on comprend très bien qu'il y a une attractivité au niveau de la Flandre qui fait que les grandes entreprises préfèrent s'y implanter. Alors du coup, ça se répercute même par rapport à Bruxelles, c'est que les managers dans les entreprises sont souvent des Flamands, des Néerlandophones. Mm-hmm. Du coup, lorsque l'on y entre avec une certaine connaissance du néerlandais au niveau de l'entretien d'embauche, ça donne beaucoup plus de chances qu'une personne qui ne s'y connaît que en français.
Et si jamais moi, Congolais, émigré en Belgique, je désire mettre en place une entreprise. Alors, dites-moi, est-ce que en tant qu'étranger, j'ai la chance de développer mes activités sans problème?
Oui, disons que peu importe que ce soit au nord ou au sud du pays, c'est possible de développer une affaire. Maintenant, en fonction de la partie dans le pays dans lequel vous allez vivre, il y a les taxes, en fait, les lois fiscales sont parfois différentes, l'attractivité est parfois différente, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui s'établissent plutôt en Flandre, dans la partie flamande du pays, que dans la partie francophone. Maintenant, dans tout le reste, c'est possible de vraiment s'implanter, de lancer un business et de le développer. Mais bon, parfois, maintenant, ça dépend de la clientèle. Si c'est un business là où le client et la communauté africaine, il faut vraiment mettre beaucoup plus d'efforts pour pouvoir rendre son business beaucoup plus pérenne parce que c'est une communauté qui ne consomme pas forcément africain et qui n'est pas forcément sensible au business qui est développé à l'intérieur, entre guillemets, de ses murs. Et du coup, il faut avoir une très bonne stratégie au fait. Lorsque l'on vient, ne pas juste se dire j'ai développé un business pour les Congolais, je vends ça aux Congolais. Il faut vraiment penser très large, autrement, c'est l'échec qui arrive au bout du chemin.
Et vous me disiez aussi, ou du moins, on va le dire ainsi, la politique d'intégration est selon vous une grosse farce institutionnalisée. Pourquoi?
Parce que comme dans beaucoup de pays, on essaie de miroiter, si je puis dire, l'égalité, on essaie de miroiter, le fait que nous avons les mêmes chances que tout le monde, alors que non, ce n'est pas vrai. En tout cas, au niveau des lois, le législateur, il met en place des lois qui donnent, entre guillemets, les chances à tout le monde. Mm-hmm. Mais lorsque l'on arrive sur le terrain, parce que déjà la différence entre ceux qui parlent néerlandais et pas néerlandais, fait que certains sont certains sur un certain niveau et d'autres sur un niveau tout autre. Moi, personnellement, j'ai eu à sentir et à vivre ce racisme. Lorsqu'il s'agit de trouver un emploi, on est confronté à cette pseudo-intégration, à cette pseudo-ouverture d'esprit, à cette pseudo-ouverture de possibilités à tout le monde. Et ça, tout de même, même au niveau de la recherche du logement. Voilà pourquoi je dis, par exemple, qu'une personne qui veut acheter un bien, un logement ou autre, se doit de mettre toutes les chances de son côté, alors qu'actuellement, on a une grande migration de, entre guillemets, la communauté africaine ou congolaise qui va plutôt vers la chambre pour trouver de quoi se loger, de quoi acheter en termes de logement et voire même parfois d'emploi. Donc,
oui.
Les lois sont là,
oui.
Mais au niveau de l'application sur le terrain, maintenant, on sent que les personnes avec qui on a affaire ne sont pas forcément sensibles à ces lois-là, sont sensibles à toute autre chose, ce qui fait qu'il y a parfois une confrontation entre ce que la loi belge veut et ce que le citoyen ou la personne que l'on a en face de soi a comme objectif
bien ça, c'est un peu partout.
Avoir en face de lui comme personne.
Mais ça, c'est un peu partout dans le monde. Hein. Est-ce que c'est propre à la Belgique?
Non, je ne dirais pas que c'est forcément propre à la Belgique, mais ici, au fait, il y a une certaine manière de fonctionner.
Mmh.
Par exemple, je vais prendre un exemple. Au niveau, par exemple, de tout ce qui est emploi et autres, il y a une segmentation, si je puis dire, entre guillemets, du marché des possibilités. Tout en haut, vous avez les néerlandophones. Juste en dessous, vous avez les Belges francophones. Et puis en dessous, vous avez, si je puis dire, entre guillemets, la classe intermédiaire, c'est-à-dire les Marocains, les Turcs. Et tout en bas, vous avez les autres, les Africains. Donc déjà, en termes de conquête, si je puis dire, du pouvoir économique au niveau de la Belgique, au niveau de la sphère politique, il y a une confrontation déjà entre les néerlandophones et les francophones. Alors du coup, ceux qui veulent monter et atteindre ces niveaux se doivent quelque part de passer, d'être du côté de l'un ou de l'autre. Quand on connaît un peu la manière dont la Belgique est en train de progresser, d'avancer, on voit bien qu'il y a un clivage, qui est un fossé qui se creuse de plus en plus entre les francophones d'un côté et les néerlandophones de l'autre dans la manière de fonctionner, de voir l'avenir du pays, etc. etc.
Vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous exhortez souvent les jeunes étudiants africains à retourner au pays pour pouvoir mettre leur intelligence au service du continent africain. J'ai une question par rapport à ça, parce qu'on remarque justement que les Occidentaux sont de plus en plus intéressés par l'Afrique. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Est-ce que les Congolais, des gens comme vous, ne sont-ils pas interpellés justement par rapport à cet intérêt soudain de l'Occident pour l'Afrique?
Disons que l'Occident n'a pas un intérêt soudain pour l'Afrique. Je pense que pour lui, c'est une question de survie.
Oui.
On voit aujourd'hui avec des pays émergents comme la Chine et autres qui essaient de mettre les pieds en Afrique, ou je dirais même qui ont le dire les pieds en Afrique, et qui sont en train de damer le pion à beaucoup de pays occidentaux. L'Occident est en train de développer une nouvelle stratégie d'amitié, de relations entre guillemets win-win avec les Africains pour justement sa propre survie. Parce qu'on sait que le marché de l'avenir, c'est l'Afrique. Les indices de croissance montrent que l'Afrique est, après la Chine, le continent ou ce coin du monde qui va vraiment beaucoup se développer. Alors, ces gens anticipent. Maintenant, la communauté congolaise, je reproche souvent à mes frères et sœurs d'être trop dans des réflexions politico-politiciennes. Donc, on pense trop à ce qui est politique, mais pas assez à ce qui est économique, à ce qui est culturel, à ce qui est spirituel, parce que toutes ces choses conditionnent le progrès de l'Afrique et du Congo. Au niveau de la communauté congolaise, on y pense. En tout cas, au niveau de ma génération, il y a de plus en plus de jeunes qui se lèvent, qui prennent la parole, qui donnent la parole aux actes, si je puis dire, ou les actes à la parole, ça peut être dans les deux sens, et qui veulent justement ce changement de paradigme, comme on dit souvent. Ce paradigme qui veut que l'on puisse voir les choses autrement, voir le monde autrement, et surtout nous voir nous-mêmes autrement, et montrer au monde la manière dont on veut se voir. Donc, les jeunes commencent réellement à prendre conscience des enjeux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé plusieurs initiatives qui entrent dans ce cadre-là, qui est non seulement d'expliquer, de conscientiser, mais aussi de dire aux gens que, voilà, les enjeux sont là, vous les connaissez, maintenant il vous faut passer à la pratique.
Vous avez récemment organisé une conférence sur les peuples de la province de l'Équateur en RDC. De quoi s'agissait-il exactement?
Pour moi, il s'agissait surtout de, premièrement, bon, c'était pas le premier événement que j'ai fait dans ce sens-ci, j'avais commencé d'abord par un dîner, que j'ai appelé beaucoup d'amis, que j'ai organisé avec une sœur à moi et d'autres amis qui rejoignent la province de l'Équateur. Parce que j'ai remarqué qu'au fait, avant de pouvoir se lancer dans des projets là où, ressortissant de la province de l'Équateur, on veut développer cette province par différents projets économiques, de santé, d'éducation et autres, on doit d'abord se connaître, savoir qui est qui et peut-être même qui fait quoi. Donc on a fait d'abord un premier dîner qui nous a permis de nous voir déjà une première fois. Et ensuite, il fallait faire cette conférence-là qui avait pour but de dire qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle les Bangalas, d'où ils viennent. Comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils sont répartis dans la province de l'Équateur et même autour de la province de l'Équateur, voire même autour de beaucoup plus loin au niveau du Congo. Donc ça nous permettait à nous de pouvoir être capable de dire je suis Mungala, je suis Ngombe, je suis Ngandi, je suis Ngaka et autres, et de pouvoir préciser réellement d'où on est originaire. Donc ce qui permet à chacun de pouvoir se connaître vraiment en profondeur et pas juste en surface.
Une organisation communautaire, cette organisation existe depuis 2010 si je ne me trompe pas.
Non, celui qui existe depuis 2010, c'est l'ASBL que j'ai créé, Banamboka. C'est une ASBL panafricaine dont le but est de promouvoir tout ce qu'il y a de positif dans les Africains, en Afrique, dans les communautés africaines, dans les diasporas africaines, afin de mettre en avant les modèles d'excellence que nous avons, parce que nous en avons vraiment des experts dans tous les domaines, des ingénieurs, des enseignants, des politiciens, des hommes d'affaires, des cadres. On a vraiment tout dans tous les domaines au niveau des Africains, mais il nous faut maintenant mettre cela en avant et surtout vulgariser une certaine connaissance, un certain savoir que nous ont transmis nos ancêtres, nos aînés, et maintenant à nous de transmettre à la jeune génération. Donc c'est vraiment ça en fait, et c'est ça le slogan de cette SBL Balamboka, c'est le savoir en partage. Prendre le maximum de savoir que l'on peut glaner ici et là et le partager avec le maximum de frères et sœurs.
Le savoir en partage qui est le slogan, mais vous avez également un site web qui s'appelle savoiretpartage.com, dont l'adresse est savoiretpartage.com.
Exactement.
Qu'est-ce que vous proposez sur ce site web?
En fait, sur ce site, on propose en fait plusieurs types de rubriques qui, comme je l'ai dit précédemment, ont pour but de valoriser ce que nous étions, de valoriser ce que nous sommes et de mettre en avant ce que nous pourrions être éventuellement dans l'avenir, c'est-à-dire une manière de se projeter dans l'avenir par des réflexions, par des études, par des prises de parole et autres. Et nous véhiculons aussi tout ce qui peut encourager les nôtres à pouvoir être fiers de leur identité africaine, être fiers de leur ascendance de leur racine afro-descendante, afin de pouvoir communier ensemble et participer à notre niveau à la renaissance africaine.
En gros, vous faites en sorte à ce que les Congolais de la diaspora ne puissent pas être coupés de leurs origines, de leur pays d'origine, en gros, c'est cela?
En gros, c'est ça, en fait, parce qu'on parle trop de cette vague d'Africains, de Congolais qui quittent le pays pour aller chercher un avenir meilleur en Occident, alors que pour nous qui vivons ici, nous savons bien que les choses sont en train de se détériorer. Alors, au lieu de continuer à encourager les nôtres à venir en Occident, comme beaucoup de nos frères le font, lorsqu'ils viennent au pays, ils viennent saper, ils montrent que l'Europe, c'est le paradis, alors que quand ils reviennent en Europe, c'est pas vraiment le paradis qu'ils vivent. Alors, nous essayons de valoriser ces personnes en disant que vous n'êtes pas moins que les Blancs, et dans votre histoire, il y a eu des faits glorieux qui sont là pour vous dire que vous êtes des personnes importantes et que votre histoire est grande. Et aussi, à côté de cela, on valorise en fait tout ce qui se fait de bien en Afrique, mais dont les médias ne parlent pas. Un tel jeune qui a inventé une machine qui permet de fournir l'électricité, des jeunes filles qui ont inventé un moteur qui permet de faire tourner des machines, un tel chimiste jeune africain qui a fait ceci, un tel monsieur au fin fond du Kivu qui a inventé une mini centrale hydroélectrique qui fournit du courant. Vous voyez, tous ces petits faits-là dont on ne parle pas, mais qui, lorsqu'on a connaissance, montrent que l'Afrique est en train d'avancer, méritent d'être mis en avant. Ça permet d'encourager ceux qui sont encore sur place à se dire, je n'ai pas besoin de quitter le pays, j'ai quelque chose à faire ici. Et c'est là l'apport que nous, de la diaspora, avons à apporter, c'est apporter cette connaissance, c'est apporter cette culture de l'excellence, c'est apporter ce savoir-là que nous avons acquis et accumulé ici, et que nous devons apporter en Afrique.
Prédicateur de l'afro-optimisme en même temps. Mais vous avez écrit Les Chroniques de l'Empire Tout, un livre paru en plusieurs tomes. Hein. De quoi s'agissait-il ou s'agit-il exactement dans Les Chroniques de l'Empire Tout?
En fait, dans Les Chroniques de l'Empire Tout, j'ai voulu surtout, mettre en avant l'imaginaire. C'est-à-dire une manière de pouvoir nous voir nous-mêmes via tout ce qui touche un peu au fantastique. Parce que, au départ, je voulais le faire surtout pour mes enfants, c'est-à-dire une histoire avec une héroïne, un récit épique, mais qui culturellement est traditionnel, d'une manière dans la sphère traditionnelle, pourrait permettre à mes enfants de s'identifier à un héros, une héroïne qui leur ressemble. Mais au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit que c'était une histoire qu'il fallait raconter aussi à un public beaucoup plus large et plus adulte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute la connaissance que j'avais accumulée en rapport avec l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo, et je l'ai intégrée dans ce livre afin de pouvoir distiller à ma manière justement partager ce savoir-là. Parce que je pense que, comme l'ont dit souvent certaines personnes, lorsqu'on lit ce livre, on se pose certaines questions, à savoir, est-ce que l'Empire en tout a existé? Est-ce que tel fait s'est vraiment passé? Est-ce que tel héros n'a existé? Parce que pour moi, je trouve que c'est important, parce que ça permet de commencer à se poser les bonnes questions sur ce que nous étions, que de juste être là à nous dire que, voilà, l'histoire de l'Afrique a commencé avec la colonisation. Alors que, bien avant la colonisation, nous étions déjà des civilisations avec l'Égypte antique, des pharaons noirs et des tas d'autres royaumes en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et un peu partout. Donc c'est super important de pouvoir vulgariser cette connaissance. Et vu que je n'ai pas une formation de scientifique, je me suis dit ça sert à rien d'écrire un livre scientifique. Donc, entrant dans l'imaginaire, oui. Et écrivant des choses qui permettront plus tard à des cinéastes de pouvoir l'adapter en série télé, en pièce de théâtre, en comédie musicale, voire en film même. Parce que, allez, il y a des films comme Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui le connaissent, qui est une trilogie de J.R. Tolkien, que moi j'ai beaucoup aimé. Et il y a d'autres séries aussi comme Game of Thrones, Le Trône de Fer et autres, mais tout ça nous renvoie toujours à un paradigme eurocentré avec des héros blancs qui se passent dans une Europe médiévale blanche, etc. Je voulais qu'en tant qu'Africain, comme les Asiatiques le font, les Chinois le font, les Japonais, les Coréens, les Turcs, les Arabes, de raconter des histoires fantastiques qui nous ressemblent et qui permettent à nos jeunes de pouvoir être fiers de leur identité en sachant que les Noirs dans les films ne sont pas que les seconds rôles ou bien les boys, les ceci, les cela. Les Noirs dans les films peuvent être des reines, des héros, des rois, des empereurs, des guerriers. Et voilà, ce
en
genre
tout
de
cas,
c'est une bonne manière d'impacter l'imaginaire et de changer un peu la mentalité, la perception que les Africains ont d'eux-mêmes.
En tout cas, vous avez une identité propre à vous, une démarche propre à vous, fidèle à vos convictions dans toutes les activités que vous menez. Mais est-ce qu'on peut connaître, puisqu'on tend vers la fin de notre entretien, quelle est votre actualité, Momi?
Actuellement, je suis en train de me démener pour la sortie du tome 3 de la trilogie Les Chroniques de l'Empire en tout. Donc c'est Genèse et Conquête, qui était le tome 1, La Forteresse de Carton des Mondes, le tome 2. Là, je suis en train de finaliser le tome 3, qui est La Restauration de l'Empire. Bon, normalement, qui doit sortir la semaine prochaine. Autrement, il y a l'événement Campus Congo, qui permet de rassembler des jeunes issus de la diaspora congolais, pouvoir réfléchir ensemble à des solutions, à une approche sociopolitique différente en ce qui concerne l'actualité de la diaspora, que ce soit en Belgique ou ailleurs, et aussi l'actualité de nos populations, de nous-mêmes en tant que Congolais, par rapport à la situation sociopolitique au pays et autres. À côté de cela, il y a la traduction de l'Chronique de l'Empire en tout en anglais qui est aussi en cours. J'ai lancé une levée de fonds, là où je demande à toute ma communauté de pouvoir participer afin de s'approprier quelque part ce projet. Il y a le Kwanzaa que je fais à la fin de cette année avec l'FB Banamboka, comme on le fait depuis 3 ans, qui permet de célébrer la famille, la culture, les traditions africaines. En gros, c'est ça. Et puis, il y a aussi ce projet de pouvoir descendre, revenir pendant quelques semaines au pays, pour pouvoir, à mon tour, remettre un peu les pieds sur la terre-mère, discuter avec des gens, m'entretenir sur des projets intéressants à lancer, et des choses à faire. Donc, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on ne peut pas juste se permettre d'aller au pays en vacances. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, mon actualité est un peu vaste. Donc, non, en général, en gros, elle tourne autour de ces choses-là.
En tout cas, merci à vous, Momi Mbouzé, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes activiste panafricain fort connu dans la diaspora congolaise en Belgique, où vous défendez justement l'Afrique et les Congolais. Vous venez d'ailleurs d'organiser cette conférence sur les peuples de la province de l'Équateur. Nous vous remercions de votre disponibilité et nous espérons que vous allez nous tenir informés de votre actualité et du reste, comment ça se passe, comment ça va évoluer et tout ça.
D'accord, ça va.
Merci.
Je n'y manquerai pas.
À très bientôt, au revoir.